Vous écoutez France Culture.
Jean-Pierre Eskenazi. Non mais je baisse là. Pour mettre de la musique.
Oui. Oui, quoi, Eric ?
Racontez-moi un peu Jean-Pierre Eskenazi.
Jean-Pierre Eskenazi, c'est un sociologue de Lyon. Et quand on a décidé de faire cette série, Eric, je me suis dit qu'il fallait qu'on aille le voir, parce que sur les séries policières, il en connaît un rayon. Il a travaillé sur plein de séries à d'époques différentes. Il connaît très bien Columbo, il connaît très bien Hill Street Blues.
J'ai vu qu'il avait travaillé sur CSI, sur The Shield. Et alors, il a une théorie. On a lu à peu près le même texte, j'imagine, notamment un texte dans lequel il dit que, il me semble, hein, que le récit policier, pour l'instant, sa plus belle forme actuelle, c'est justement le récit sériel, le récit de la série télévisée. Il fait le parallèle, il dit que cette littérature policière du 19e siècle, c'était considéré comme de la paralittérature, et qu'aujourd'hui, la télé a un petit peu remplacé, enfin, a pris un petit peu ce rôle-là aussi.
Donc on va aller le voir avec votre super voiture. Elle est rouge un petit peu comme celle de Starsky, non ?
Oui, la Ford Torino, de Starsky Hutch.
Ah oui, parce que vous savez même...
Mais je l'avais, moi. Je l'avais en petite voiture.
Ouais, bah, mais vous êtes fou, Eric.
J'étais le roi du quartier.
Alors on y va, mais vous devriez accélérer un petit peu, sinon on arrive en retard.
Allez, on y va.
Benoît Lagan,
Eric Vera.
Série télé,
l'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 11.
Le flic. Un personnage dans l'air du temps.
Manhattan South Detectives. We will respond. We're in civilian clothes.
10-4, car 723.
All right, let's go.
Alors, dans les épisodes précédents, Eric, nous nous sommes arrêtés sur deux auteurs de des décennies 70-80, Aaron Spelling et Stephen G. Cannell. Tous les deux ont produit à leur époque des séries policières mettant en scène des flics ou des détectives, des séries très marquées 70s. Je pense par exemple à Starsky Hutch ou encore Charlie Angels, Les Drôles de Dames pour Aaron Spelling, ou encore Barretta et 200 dollars plus les frais pour Stephen G. Cannell. Alors ce soir, nous nous intéresserons donc plus spécialement à ce type de séries, les séries policières ou les séries à enquête avec des flics et des détectives. Et les années 70 vont être marquées par de nombreux héros qui sont complètement dans l'air du temps. Alors, les flics de cette époque, on les connaît tous au moins de nom. Il y a Columbo, Kojak, Barretta ou encore Starsky Hutch. On en parle tout au long de cet épisode. Freeze !
Merci Benoît. Rien que pour ça, faut aimer les séries. Hein. On vient d'écouter Manix avec la sublime partition du grand compositeur brésilien Lalo Schifrin. Ça, c'est du générique. Alors Manix, bah, c'est justement une série rêvée, hein, pour faire la transition entre les années 60 et les années 70. Déjà, elle dure de 1967 à 1975. Elle est en plein milieu de la période. Et puis elle est créée par Link et Levinson, hein, une paire de producteurs comme l'histoire de la télé. On n'a pas vu beaucoup. Ces producteurs, ils seront à l'origine de Arabesque, mais aussi de Banachek, et puis d'une autre série dont on va parler, une série mythique qui s'appelle Columbo. Alors il est toujours ardu, hein, de parler de la figure du policier, et puis par extension de la série aussi de détectives privés en matière de fiction télé. Le genre, il est simplement extrêmement prolifique. Il y a de nouvelles séries tous les ans, et donc il sera impossible de parler de toutes les œuvres produites. Mais bon, globalement, sans généraliser, on peut dire que tous les héros de séries à enquête de ces années 70 vont être bien plus typés. Hein. Donc ces héros, ils vont évoluer avec une société dans laquelle les notions de bien et de mal vont être malmenées. On est dans les années 68. Et puis en parallèle de tout ça, on voit qu'au cinéma Bullitt, on voit que l'inspecteur Harry sont passés par là. Le méchant, maintenant, il est partout. Ça peut être un politicien véreux ou un junkie qui vous attend en bas de chez vous. Donc là, la télé s'éloigne de Dragnet, du réalisme procédurier de cette série. Et en même temps, elle a jamais aussi bien retranscrit l'air du temps et l'air du temps de la rue.
Alors, parmi les séries de transition de la fin des années 60, je pense aussi à une autre grande série qui est diffusée à peu près aux mêmes dates que Manix, une série qui a pour titre L'Homme de Fer, qui a bien été diffusée en France. C'est l'autre grande série du comédien Raymond Burr, que l'on avait vu longtemps dans le rôle de l'avocat Perry Mason, et qui réapparaît donc sur NBC, sur fauteuil roulant, dans une série policière entourée d'une équipe de jeunes flics. Donc la particularité de ce détective, c'était qu'il enquêtait depuis sa chaise roulante, qu'il y avait donc peu d'action de sa part, et que c'était son instinct et son intelligence qui étaient plus utiles que sa force physique. Une donnée que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les séries de l'époque, je pense à Cannon, mais nous y reviendrons dans cet épisode, ou encore à Barnaby Jones, le retraité détective privé.
Qui reprend du service suite voilà. À la mort de son fils.
Ouais. Et puis Columbo, bien évidemment.
D'accord. Donc ouais, on peut... Bah, alors Columbo, hein, on y est. Donc on peut difficilement parler des séries enquêtes des années 70 sans parler en fait de la case où est né Columbo. Je pense aux Mystery Movies hein, du network NBC. Alors pour faire court, c'était une case dans laquelle se succédaient semaine après semaine des séries. Hein, donc elles y revenaient régulièrement. Et cette case, elle avait la particularité d'être une case de 90 minutes. Ce qui n'est pas un hasard, c'est justement un lieu où les enquêtes vont être plus longues, plus fouillées. Et donc Columbo va faire partie de cette case, un format qui va changer la manière hein, de poser une enquête. Ce type de rendez-vous va si bien marcher que NBC, dès son instauration en 71, l'année suivante, crée une deuxième case de NBC Mystery Movies. Et donc là, on va voir tout un panthéon de grandes séries. Je pense à Banachek, je pense à Madigan, hein, avec l'immense Richard Widmark, en flic complètement intraitable. Alors la série la plus importante de cette case, c'est sans conteste Columbo. Hein, c'est une des séries les plus connues de l'histoire de la télé. Alors elle est connue parce qu'elle est très marquée. Qu'est-ce que c'est Columbo ? C'est le principe d'interversion, c'est-à-dire que dès le départ, on sait qui a fait le coup. Et finalement, la série, elle s'articule pas énormément sur qui a fait le crime, mais comment le policier va découvrir tout ça. Columbo, c'est aussi un flic hein, aux allures de... Vous savez, de Petrovitch dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est-à-dire une flic qui a l'air de rien puis qui finalement trouve à la fin. Columbo, c'est aussi une série très très photogénique, à la fois surannée et à la fois très moderne dans la photo. Et bon, c'est pas étonnant de retrouver après au générique des gens comme Spielberg qui apprenaient leur métier à cette époque-là dans les années 70, ou même Steven Bochco qui a écrit des scripts de la série.
Alors là, on est arrivé chez Jean-Pierre Eskenazi. On va aller le voir, ça vous dit ?
Allez,
il va nous en parler.
C'est parti.
L'histoire de Columbo est très très intéressante parce que c'est une histoire de production tout à fait remarquable et extraordinaire. Thomas Mitchell meurt au dernier moment et on va aller chercher alors un acteur connu pour être un acteur indépendant, comme on dit, qui a joué beaucoup avec Cassavetes, qui est un copain à Cassavetes, etc. Peter Falk, qui va jouer un rôle qui a un caractère de chien et qui va jouer un rôle très important dès le départ en imposant un certain nombre de choses aux producteurs et aux jeunes gens qui dirigent ça, qui sont novices, qui sont les auteurs de la pièce, hein, qui vont se muer en producteurs de la série. Et donc en fait, il y a toute une... Pendant plus, cette série va subir plusieurs comme ça, atermoiements, devenir une adaptation. On arrête parce que Thomas Mitchell meurt, on cherche qui peut reprendre le flambeau, et tout ça est travaillé, retravaillé, ce qui fait que la production passe par des moments extrêmement difficiles. Et donc, il y a tout un passage de cette série du cinéma à la télévision, à travers les gens qui l'ont fait, à travers la mort de Thomas Mitchell, qui est vraiment un grand acteur du cinéma hollywoodien, etc., et par l'arrivée de nouveaux gens, de nouvelles personnes, personnalités de télévision, et aussi d'une nouvelle personnalité du cinéma, comme Petra Falk, qui n'est pas un acteur classique, lui, c'est vraiment le nouveau type d'acteur, etc., qui fait que tout le monde du spectacle, en quelque sorte, tous les aspects du monde du spectacle américain sont concernés par cette série-là et vont marquer quelque chose. Moi, je pense que c'est une série hollywoodienne. Si vous regardez bien, vous voyez que les méchants sont des gens du spectacle, presque systématiquement, des gens de télévision très souvent, qui veulent obtenir des postes, qui veulent ou qui guident un héritage énorme, ou qui veulent qui sont des chanteurs importants, qui veulent bon. Et donc là, il y a un rapport. C'est une série, me semble-t-il, où le premier sujet, au-delà d'être une série policière, le premier enracinement social, disons, c'est le monde du spectacle américain en train de se transformer et de passer réellement du cinéma à la télévision, et dont l'inspecteur parle. Et là, le génie de Peter Falk, c'est d'avoir accentué cet aspect mouche du coche, qui est le personnage qui n'est pas du tout du monde du spectacle, etc., mais qui représente justement ce spectateur du monde du spectacle. Il est toujours fasciné. Ah, oh, je vous ai vu dans tel rôle, tel. Oh, c'est tellement bien, c'est tellement magnifique, etc. Donc, on introduit ce personnage qui est le personnage manquant vis-à-vis de tout cela, c'est-à-dire le spectateur. Le spectateur, avec ce alors, quand il n'est pas là, il a ce spectateur fantasmé qui est sa femme, qu'on ne voit jamais, qui est aussi le personnage qu'on ne voit jamais, évidemment, du film. Le spectateur, il est dans la salle, il n'est jamais représenté. Et c'est très juste que la femme de Colombo n'apparaisse pas dans la série.
Allez, on n'est pas en avance. Dépêchez-vous tout le monde, remuez-vous un peu, ouvrez vos oreilles. Bon sang, ça roupille. Vous, là, celui à la casquette de baseball, venez par ici, voulez-vous, s'il vous plaît. Ne restez pas planté là. Et les autres, tout le monde en place.
Fermez la porte.
Les sans-abri, les clochards, à vos places. À vos places, pressons, pressons.
Excusez-moi, je cherche...
Mettez-vous monsieur... là-bas. Hein?
Comment là-bas? Mais... Non, je voudrais voir...
Avec les autres, vous êtes en retard.
Non, ça, je suis en retard.
Je veux voir tout le monde à sa place. Vous là, avec le caddie. Vous mettez pas en travers, s'il vous plaît. Et maintenant, Jennifer Chambers va arriver par la ruelle en venant de ce côté-là. Elle est vêtue d'une robe du soir en soie. Elle a une plaie qui saigne à la tempe. L'air hagard et désorienté. Vous le remarquez, mais personne ne réagit. N'en faites surtout pas des tonnes.
Alors, Preston, on va pouvoir y aller?
Oui, tout de suite, ça va être prêt. Il me faut un autre clochard contre le mur. Oui, vous là, vous, ça fera l'affaire. Contre le mur, s'il vous plaît.
Non, c'est à moi que vous parlez, monsieur.
Oui, c'est à vous. Mettez-vous là. Ah, c'est pas mal, les chaussures. Elles sont plus vraies que nature, disons.
Excusez-moi, monsieur, il doit y avoir une petite erreur, parce que je... Qu'est-ce que j'ai fait de ma plaque?
On peut y aller.
C'est bon. C'est très bon.
Ah, ça y est, je l'ai trouvé!
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait là?
Je suis de la police.
Coupez, mon sang, mais coupez!
Qu'est-ce qu'il fait ici, Jennifer. Celui-là? Eric, c'est
bon,
incroyable!
Ça va, la scène
est réussie, cette espèce de crétin!
Jennifer, vous êtes virée, passez à la caisse!
C'est peut-être un de vos protégés, Preston.
Mais écoutez, je suis lieutenant de police.
De police? Non,
ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis.
Officier de police?
Oui, madame.
Bon, reprend! Tout le monde en place! En place! Il me faut un autre clochard et on y va!
On a deux choses. Premièrement, c'est cette invention extraordinaire qui est de faire admettre qu'on va travailler pendant une heure et quart sur une énigme dont on connaît le résultat. On sait quel est celui qui va être arrêté. Bon, ça, c'est quand même une chose absolument extraordinaire. Et deuxièmement, une mise en scène quand même du monde à l'intérieur duquel ces gens travaillent. Et c'est pas pour rien, me semble-t-il, que certains des épisodes parmi les meilleurs, comme celui où Colombo se mue en projectionniste, où c'est des problèmes de poste de responsabilité à l'intérieur du monde de spectacle qui sont en jeu, ou celui où Colombo arrête le héros d'une série policière. Bon, il y a tout un... Donc là, il y a toute une réflexivité que malheureusement la critique française, qui a toujours été là dans le cinéma hollywoodien, les films hollywoodiens, les séries américaines ne cessent pas de parler de leur propre monde. Mais là, avec Colombo, on a quelque chose. On a, me semble-t-il, un document qui est très très fort. D'où la réussite quand même extraordinaire qui fait que là, moi je suis en train d'interviewer des gens qui sont des fans de séries. Et j'ai trouvé un jeune quand même de 25 ans qui fait du droit. Copstar, cravate, etc. Et lui, qu'est-ce que c'est sa série préférée? C'est Columbo. Alors c'est invraisemblable qu'un jeune d'aujourd'hui, il préfère encore Columbo. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et il en est à me dire que finalement, lui, Columbo, quelquefois, dans certaines situations, il se dit qu'est-ce que ferait Columbo. Enfin, bon, c'est quelque chose qui meuble son univers d'une façon importante. Alors je trouve quand même que c'est assez remarquable que ce personnage, au bout de 35 ans, reste d'actualité pour quelqu'un qui vit dans un monde totalement différent actuellement.
Thank you.
Colombo est un immigré, hein, c'est un Italien, italianité marquée, un Italien qui aime les plats mexicains. Enfin bon, il reste.
Avec
une voiture française. Alors, l'histoire dit que c'est, le fait que ce soit française n'est pas important, mais que c'est la plus déjantée qu'ils aient trouvée. Donc, elle aurait été n'importe quoi. Ça aurait été bien. Ils ont eu un mal de chien à la faire marcher, d'ailleurs. Bon, elle a continué à la faire marcher, à récupérer d'autres modèles. Enfin, cette histoire de la voiture. Et c'est lui qui a choisi tout. Hein. Il a aussi imposé ses costumes, hein, ses propres fringues. Peter Falk, il a amené tout sur le plateau, ils n'ont fait aucun...
L'impère, c'est dans la pièce de théâtre, il n'avait pas l'impère ?
Non. La légende, moi j'ai lu dans le biographe de Listmay qui a raconté le... qui s'appelle Dodisiac, qui a écrit un petit livre sur... un bon livre même, anecdotique certes, mais quand même très intéressant sur la série, qui dit que c'est Colombo qui a fait plusieurs essayages, il en a eu marre, il est venu avec son imperméable. Un jour, sur l'essayage, il a dit « bon, moi je vais jouer comme ça, et puis voilà ». C'est aussi Colombo qui, parce que en fait, à un certain moment, je crois que c'est au bout de la deuxième saison, elle était moins bonne au niveau des résultats, et les producteurs ont dit on va vous adjoindre quelqu'un, on va vous adjoindre un second, comme ça vous allez avoir quelqu'un avec qui dialoguer, etc. Et Colombo était fou de rage, Falk était fou de rage, erreur amusante. Il a été fou de rage et il a dit bon, très bien, il a pris ce chien et il a amené le chien. Il a dit voilà, ce sera lui mon aide.
Pour moi, tout s'est passé à merveille, ça a été parfait.
Et la police, comment ça se passe ?
Sans problème, tout se déroule très bien. Un des inspecteurs a été très prévenant et très charmant. Il a voulu mon téléphone, pour le cas où. Oh, c'est lui, justement. Oui, celui dont je viens de te parler. Il verse de l'eau dans une gamelle pour un chien. Une espèce de gros basset.
Qu'est-ce qu'il peut vouloir ?
Alors, à la même époque que Colombo, la télévision américaine va installer à l'écran des personnages assez particuliers, au caractère hein, ou au physique qui ne laisseront pas de marbre les téléspectateurs de l'époque. Parmi ces personnages, je pense en particulier à Cannon, qui va faire les beaux jours de CBS pendant 5 ans. Alors, la particularité de cette série se basait, comme beaucoup de séries policières de l'époque, sur le comédien qui interprétait le personnage principal. Et dans le cas de Cannon, par exemple, c'est William Conrad. Alors, le créateur de la série Quinn Martin a eu le génie d'imposer ce comédien dont la voix était fort connue des auditeurs puisqu'il était l'un des conteurs les plus célèbres des séries radiophoniques de la fin des années 40. Il était notamment, Eric, la voix de...
Bah, du Marshall Matt Dillon dans Gunsmoke, votre série préférée, Benoît.
Bien évidemment, et surtout la voix off à la télé de la série Le Fugitif. Moi, ce que je trouve intéressant dans Cannon, c'est que le personnage... mis à part le fait qu'il était obèse et donc qu'il était imposant physiquement, avait aussi une psychologie très fine et était quelqu'un qui, veuf, très solitaire, avait par ailleurs beaucoup d'amis qui pouvaient lui donner ici ou là quelques coups de main, mais que l'on voyait peu, qui aimait vraiment rester seul, et qu'on est avec Cannon à l'image de tous ces flics que l'on trouve au fil des années 70, c'est-à-dire des flics hors normes, avec un comédien imposant et qui va imposer sa marque et son style. Le flic unique, il y en a d'autres. Bien évidemment, il y a Kojak, on y revient dans un instant, ou encore Barretta. On est là vraiment dans des séries où les producteurs essaient de trouver de nouveaux publics en imposant, bah, je me répète un petit peu, mais c'est le cas, des personnages très différents. Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time.
Benoît, vous venez de citer Barretta et Kojak, qui sont effectivement deux des immenses séries de ce début des années 70. Alors, elles commencent toutes les deux la même année, 1973, et ces deux séries, elles ont un point commun, c'est qu'on peut difficilement imaginer des acteurs principaux plus investis que ces deux-là. Robert Blake pour Barretta, qui interprète un flic undercover qui vit dans un hôtel miteux. Et puis, Telly Savalas qui joue Théo Kojak. On peut là aussi difficilement imaginer Kojak sans Telly Savalas.
L'homme à la sucette.
Et voilà, l'homme à la sucette. Donc, dans ces deux séries, ce qui est important, je pense, c'est que le policier n'apparaît plus comme un surhomme qui règle tous les problèmes. Il est simplement dépassé par la violence qui règne dans les rues, et puis bah, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il a à faire pour vaincre l'injustice, mais c'est pas toujours facile. Et cette noirceur, ce pessimisme, c'est une vraie marque de fabrique de ces années 70.
La course poursuite qui dure un certain temps et qui est assez longue.
C'est un grand classique des années 70 hein, dans le cinéma. On va voir Bullitt, hein, bon, chevauché dans San Francisco, French Connection dans New York. Ah, vraiment, c'est le... Peut-être quand même ce qui change, c'est que c'est le soin avec lequel c'est fait. Et ça, je pense que c'est un soin et des moyens qui ne sont pas forcément ceux de la télévision auparavant. Donc là, quand même, c'est quand même assez bluffant à ce niveau-là. Je me demande si, auparavant, on a pu mettre dans un téléfilm autant d'argent. Parce que ça coûte cher, cette scène, hein. C'est pas rien, tout ça. Même Les Incorruptibles, c'était la plupart du temps dans des tout petits décors. Je trouve ça relativement moderne, moi. C'est évidemment, bon, ça serait plus compliqué, on suivrait plus les procédures aujourd'hui, on aurait plus de... Mais par exemple, dans Law and Order, il y a un épisode où c'est la procureure qui vient parler avec l'otage à l'intérieur de... Il est accusé pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode. Bon, donc, ça pourrait exister. Moi, je trouve ça assez moderne. Ah, les interférences entre cinéma et télévision et mise en scène là sont très claires. Et sans doute ça suit un certain nombre de films cette série. Parce que je suis pas sûr que la télévision soit. Et comme aujourd'hui, autant conscience de son propre potentiel d'innovation.
Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'univers du crime hein, dans les fictions américaines, il entretient un rapport particulier avec les grandes villes du pays. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, The Shield, la série, elle pourrait pas être ce qu'elle est si elle n'était pas tournée dans les vrais quartiers ethniques de Los Angeles. La figure ambiguë de Vic McKee, hein, qui est quand même le cœur de la série, elle suffirait pas. Il faut vraiment cette peinture-là. Je pense aussi à Law and Order, qui se passe à Manhattan, réellement à Manhattan, tournage dans les rues de Big Apple. Et là aussi, si on n'était pas dans New York, on n'aurait pas cette énergie-là. Et bien, dans les années 70, le principe, il est éclatant, avec Kojak, par exemple, hein, qui présente un New York vraiment qui sort de la carte postale habituelle. Donc, on est dans un New York très noir. Il faut savoir que dans les années 70, New York, Manhattan était très très dangereux. Maintenant, on s'y balade de manière très simple, mais c'était pas le cas à l'époque. Et la série montre tout ça. Tout comme dans Barretta, on voit donc le héros qui se balade à Los Angeles, qui se balade sur Hollywood Boulevard. Et là encore, on n'est pas du tout avec les touristes qui regardent les étoiles. On est plutôt du côté des dealers, des prostituées. Et là encore, donc les séries policières déconstruisent le mythe. Et ça aussi, je trouve que c'est très typique de ces années 70.
Alors si Barretta est à l'image de LA et si Kojak est à celle de New York, il y a aussi une autre ville qui est désormais rattachée pour toute une génération à un autre duo de flics, Stone et Keller, les deux héros flics des célèbres rues de San Francisco. Là, le titre de la série dit tout. C'est une série encore de ce fameux producteur Quinn Martin qui réunissait donc à l'écran, comme quoi Quinn Martin savait faire des bons choix de comédiens, Carl Malden, qui était l'un des grands second rôles de Hollywood dans les années 50 et 60, et puis le fils de Kirk, Michael Douglas, futur star de cinéma. Alors, un an avant Kojak, Stone et Keller, les deux flics des rues de San Francisco, apparaissent donc à la télévision. Et là, on a un duo assez intéressant. Le flic âgé, expérimenté, interprété par Malden, qui est secondé par un jeune diplômé en criminologie, Keller, interprété donc par Michael Douglas. On est là quand même dans une forme assez classique à l'époque, car les histoires d'un flic expérimenté, secondé par une jeune recrue, c'est une forme qui avait été initiée à la télévision en 1968 par Jack Webb, le fameux Dragnet, dans une série qu'il avait produite, Adam 12. Les rues de San Francisco reprennent un petit peu cette idée, mais en imposant la ville presque au même titre que les personnages.
Alors la jeune recrue, hein, et le flic expérimenté, ou alors le good cop, le bad cop, le flic démotivé et le flic motivé, vous, moi, hein, c'est voilà, c'est une sorte de duo comme ça qui sont très à la mode. Et c'est une figure qui restera, mais qui est très à la mode dans ces années 70. Alors la série qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Starsky et Hutch, hein, une série qui a marqué la culture populaire de la fin des années 70 et puis même le début des années 80. Et je dirais même presque plus en France, hein, une série qui est très populaire en France, qui n'était pas tant que ça aux États-Unis.
Diffusée en boucle tous les dimanches pendant des années.
Hein. Voilà, sur TF1. Alors, ce qui marche dans Starsky Hutch, c'est avant tout que ces deux héros, en fait, bien plus que les autres héros de ces années 70, ils sont comme nous. Hein. Ils ont des baskets, ils plaisantent, ils draguent des nanas.
Et ils ont la même voiture que vous, Eric.
Et voilà, ils ont la même voiture que moi.
Alors, quelle voiture ? La mienne ou je rentre à pied ? T'as plus d'amortisseur et j'ai toujours peur que tu perdes une roue. C'est une voiture sport, c'est normal. Tu la trouves bien, ta voiture? Non, avec une couleur pareille, c'est pas gay, hein. Et puis ça fait voiture de vieille dame. Monte, mémé. Alors, on vérifie si rien ne manque. Ah. Balle? Oui. Ton Beretta? Oui, mon Beretta est ton 38. Parfait. Fusée? Oui, il y a de quoi faire.
Grenade lacrymogène?
Grenade lacrymogène. 1, 2, 3, 4.
Exact. Fusil?
Oui, là. Et coincé.
Faudra les coincer, radio.
Chacun la sienne. Nouvelle batterie. Hola.
Allô. Y a pas de torche?
Y a... Et voilà la torche.
Et le bouquin?
Et le bouquin.
Tiens, pour une fois, on a tout.
Je crois quand même que c'est quand même dans l'air du temps des années 70, où quand même l'air du temps est à la critique des élites, est à la critique de la société de consommation. On est en pleine lutte contre la guerre du Vietnam, on est en pleine hippisation, avant beaucoup d'intellectuels d'ailleurs vont se reconvertir dans l'écriture de télévision, hein, de cette époque-là, enfin de gens qui viennent de ce moment-là, mais il est sûr que là on est dans quelque chose qui quand même est relativement dans l'air du temps, sans que ce soit une lutte des classes réellement. Hein. Bon, il y a quand même Starsky et Hutch, je crois que ce soit Starsky et Hutch, c'est fin des années 70, 75-76, et bon, avec des flics urbains qui travaillent dans un commissariat, mais qui sont quand même les héros. Et par contre, ils ont une vie personnelle et il leur arrive des choses à eux. Ils sont amoureux. D'ailleurs, quand ils sont amoureux, les filles meurent toujours parce qu'ils savent pas quoi en faire, les scénaristes. Bon, c'est une série qui a été faite, c'est très simple et très très évident. Alors, on va utiliser les schémas habituels, sauf que les flics vont sortir des campus qui ont lutté contre la guerre du Vietnam. Voilà. On met deux personnages comme ça, et on a des attitudes, des comportements qui sont nouveaux, et ça fait la nouveauté. Et le succès, ça va faire le succès de la série, sans aucun doute. Hein. Avec l'ébauche d'un milieu social, son indicateur, son commissaire, etc. Et puis quand même, le chef est noir, le commissaire est noir. On fait un petit peu attention dans ces années-là d'introduire quand même des personnages. Donc là, les années 70, on introduit des choses qui ne se voyaient pas avant.
Alors cette soirée avec la jolie Cécile? Acceptable. Acceptable. Et l'autre, tu la vois toujours?
L'autre? Tu la vois encore plus, oui.
Je l'ai emmenée chez Mariano. Je lui ai offert une pizza. J'aurais pas cru que c'était si sérieux. Ça n'est pas sérieux.
Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, Eric, par rapport à Starsky et Hutch, sur la qualité des scénarios. Ce que l'on peut dire, c'est que lors des premières saisons...
Vous ressemblez à Starsky, par contre. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ça, c'est vrai. D'accord. Et donc, revenons à mes scénars. Je trouve que les scénars de la première et de la deuxième saison tournent plutôt bien. Ouais. Ils sont signés, par exemple, Michael Mann, futur créateur de notre duo de flics célèbres, mais cette fois-ci des années 80... Miami Vice, les deux flics à Miami. Mais je trouve que quand même, au fil du temps, et notamment les deux dernières saisons, sont assez faibles et que l'on sent un petit peu une routine chez les scénaristes.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. On pourrait se demander si Starsky Hutch n'est pas le bout du bout d'une certaine idée de cette série des années 60-70, c'est-à-dire un concept assez mince, avec une multiplication parfois heureuse, parfois pas, d'épisodes tournant autour de... finalement des mêmes thèmes, hein, qu'on voit d'une série à l'autre. Faut peut-être dire deux mots finalement de ce contexte de production. Les années 70, c'est le pic de la puissance des grands networks, hein, et on peut imaginer qu'à cette époque-là, ils se cassent moins la tête pour créer de grands concepts. Et du coup, les trois groupes font fortune finalement en limitant la bataille, et personne ou presque ne souhaite prendre de risques, hein, mais c'est sans compter les auteurs, hein, emmenés par un certain Steven Bochco, on va en parler très bientôt. Lui, il travaille toutes les années 70 sur des séries de flics, et dans deux séries, Paris Del Vecchio, dont on n'a pas parlé là, qui ne sont pas des séries qui ont forcément très très bien marché, il prépare les séries qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, on en parle demain.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Mixage Pierre Mine.
Réalisation Lionel Quentin.
Une émission de Benoît Lagane et Éric Véra.
Des compléments sur franceculture.com à la page de notre émission. Et puis retrouvez également l'univers des séries télé dans Générique, le magazine de la culture série.
Demain, la révolution in Street Blues.
Bonne nuit.
Allô, ici Zèbre 3.
J'écoute Zèbre 3.
On part en balade. On rentre au poste vers 13h.
Amusez-vous bien.
Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.